C'est le moment de la 10e journée de Top 12, la 10e et dernière journée. Elle a eu lieu il y a 2 jours et nous on débrief tout de suite les 3 rencontres de la poule 1. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
21 Shuttle Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that!
Salut Benoît, comment vas-tu?
Salut Ewan, bonjour à tous. Prêt pour débriefer cette dernière journée de Top 12 et toi?
Je vois que t'as manqué de qualificatifs pour la décrire. Parce que Benoît, c'est vrai qu'on se faisait cette réflexion juste avant. C'est vrai que la saison, il y a eu pas mal de changements de classement, mine de rien, hein, ça a mis du temps à se dessiner. Mais pourtant, cette dernière journée n'a finalement pas été spécialement décisive et il y a certains clubs qui étaient, pour le dire simplement, un peu en roue libre.
Oui, c'est une façon polie de le dire. Après, l'autre réflexion qu'on se faisait, c'est de se dire au moins le top 12, c'est bientôt terminé pour nous, mais je sais pas s'il fallait être aussi honnête.
Maintenant que tu l'as été, autant continuer mais rester, puisque bon, ça va être il y a quelques petits matchs intéressants, des joueurs, on vous promet que vous les avez jamais vus, et au pire, on rigolera bien comme d'habitude. On va commencer donc, je l'ai dit dans cette poule 1, par le match entre Air-sur-la-Lys et Fos-sur-Mer. Du coup, où Air-sur-la-Lys, la rencontre dernière, pardon, s'était fait passer devant par Chambly, alors que Fos-sur-Mer, ça fait un moment qu'ils savent qu'ils sont premiers, enfin qu'ils sont qualifiés et même premiers, donc c'était quasiment déjà fait et c'était fait même. Et équipe Benoît bien diminuée avec la présence de Popov, mais pas les mêmes que d'habitude.
Oui, pas les bons, j'ai envie de dire. On nous a menti sur la marchandise. Non, mais en fait, c'est bizarre même, parce que cette compo, t'as fait venir quand même des joueuses étrangères. Et
oui,
en même temps,
vrai.
Tu joues le truc et tu le joues pas. Donc, c'était vraiment bizarre. Etienne Deneville, je crois pas l'avoir vu non plus cette saison en top 12. Non, je confirme que non.
Pas souvenir non plus.
Là, il joue 2 matchs. En fait, c'est bizarre d'avoir fait venir, des joueuses étrangères et en même temps, sans faire offense à Boris Popov, il est encore très très jeune et il n'a pas le niveau pour jouer en top 12.
Oui.
Enfin, bizarre. J'ai pas son âge.
14 ans, je dirais, non ?
14.
KD1 ?
Ouais, c'est ça.
Je sais pas.
C'est ça.
Oui, alors, Thomas Junior Popov absent. Ce qui peut s'expliquer, Benoît, je trouve, le nombre de matchs qu'il a joué dernièrement, notamment en Espagne. On a bien vu qu'à Orléans, il n'était pas au top, donc ça peut s'entendre. Le joueur anglais, Steven Solwood, était également absent, et du coup, tu l'as dit, ils ont été remplacés par Boris Popov, donc le petit frère de Thomas Junior et Christo, et Étienne Deneville. Donc Christo, il a été propulsé simple homme 1 et il a joué Brice Leverdez. Il a gagné 21-18, 17-21, 21-19. On reviendra notamment sur ce match, je vais en dire un mot à la fin. Lane Vendy était là, puisque oui, on n'a pas trop parlé de Air-sur-la-Lys, mais pour le coup, l'équipe, elle avait quand même fière allure. Pas de Louis Ducrot, mais sinon, à part ça, franchement, c'était une belle équipe sans les deux Malaisiens, j'ai envie de dire, évidemment.
Oui.
Donc, Ben Lane et Sean Vendy étaient là, ils ont battu Étienne Deneville et Boris Popov relativement, voire très facilement, 21-6, 21-10. Les deux simples dames ont été difficilement gagnées par Air-sur-la-Lys, mais ils ont été pris à vraiment pas grand-chose. Vivian Sandorasi qui a battu Ophelia Casier 19-21, 21-14, 21-19. Tandis que Roman Klotofuko a battu la joueuse turque Zera Erdem 21-11, 15-21, 21-19. Sean Vendy a été mis en échec avec Flavie Vallée en mixte contre Christo Popov et Mai Suro, donc la deuxième joueuse étrangère à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, Benoît. 21-14, 21-15. Je l'ai dit, pas de Louis Ducrot, mais Charles Foin a battu Boris Popov 21-8, 21-5. Derrière, un match partout dans les deux qui restent. Ben Lane et Yael Oyo ont battu Étienne Deneville et Elsa Jacob 21-18, 21-13. Tandis que, pour finir, Zera Erdem et Mai Suro en double dame ont facilement battu Vivian Sandorasi et Flavie Vallée 21-7, 21-13. Donc Benoît, ça fait quoi ? Ça fait victoire de Air-sur-la-Lys 5-3. C'est seulement la troisième défaite de la saison pour Fos-sur-Mer. Et Benoît, je l'ai pris en premier parce que cette rencontre, puisque au vu de ce qu'on a sur les deux poules, hein, globalement, c'était quand même une des meilleures rencontres de la journée, à mon sens. Tu vas me dire si t'es d'accord. Alors, il y avait des absents de chaque côté, mais du coup, ça a rendu le truc très serré et il y a eu des matchs assez sympas.
Bah, c'était la meilleure, je pense, rencontre toutes poules confondues. On en reparlera après, mais pour moi, c'était le cas. Pareil, on a parlé de Foss, mais on pourrait parler aussi de R. Ça doit être tellement frustrant pour eux de s'être retrouvés privés de Ben Lane et Sean Vendy alors qu'ils jouaient leur saison, et là de les avoir sur une rencontre où finalement il fallait un miracle. Il aurait fallu un concours de circonstances hallucinant pour que R aille en playoff. Ça doit être quand même très frustrant pour eux, mais au moins on peut pas leur reprocher de pas avoir joué le coup jusqu'au bout. Et effectivement, je vais te laisser en dire un mot, mais je pense qu'on a eu, pour le dernier match de la carrière de Brice Leverdez, je pense que c'était un bon jubilé, on peut dire.
Voilà, alors je voulais en dire un mot, effectivement, pour le match. Brice, était quand même en grande difficulté, il prend pas une tôle, mais une belle correction contre Peñalver à Orléans. Là, il joue Christo, en simple 1, et vraiment gros match. Franchement, il y a eu des très beaux échanges, je crois que c'est... Foss sur mer qui en a mis un sur son Instagram si vous voulez aller voir s'il est encore dispo, qui est notamment très très joli. C'était un bon gros match finalement remporté par Christo, et surtout et ça c'est Brice qui en a parlé sur son Instagram, le beau geste de R sur la liste qui lui a rendu hommage à la fin de la rencontre, qui a fait venir notamment Bertrand Gallet, son coach historique. Il y a eu un petit moment sympa avec Christo et Brice avait l'air très touché. Et Benoît, on a parlé la semaine dernière de ce qui n'a pas été fait à Orléans, ce que Orléans n'a pas pu faire pour lui. Et ben là, R, qui n'est pourtant pas son club historique, hein, c'est que sa deuxième saison, me semble-t-il, qu'il joue, puisque lui a beaucoup joué à Créteil. Et ben c'est un très beau geste de la part du LVA, j'ai trouvé.
Ouais, très classe, mérité pour sa carrière, mais entre le faire et le faire très bien comme l'a fait le LVA, il y a un gap. Et je trouve franchement, si vous l'avez pas vu, je pense que c'est encore visible la cérémonie entre guillemets. Je pense qu'elle est encore visible, ce soit sur YouTube ou sur les réseaux de R. Mais vraiment un super moment, et je trouve que c'était mérité pour ce qu'il avait pas eu, tu l'as bien dit, à Orléans.
Et Benoît, pour le reste, est-ce que tu veux revenir sur certains matchs où j'imagine que comme moi, tu partiras du principe que c'est finalement les deux simples dames remportées 21-19 au troisième par le LVA qui ont décidé de la rencontre finalement.
Bah clairement, et il y a eu match sur ces deux rencontres, mais c'est vrai que c'est... Enfin, Zera Erdem, on aurait pu l'avoir gagné parce qu'elle fait une grosse saison. Ophélia Cazier, c'est quand même plus compliqué. Mais encore une fois...
Justement, Benoît, on loue les qualités de Zera Erdem, et là, elle perd contre une autre joueuse dont on loue pas mal les qualités, j'ai l'impression, dans ce podcast. C'est Romane Clotofoucault, qui a été, encore une fois, très solide.
Bah oui, et puis elle a clairement assis sa place pour la saison prochaine, je pense, à R. Ailleurs, je sais pas, mais en top 12, ça c'est sûr.
C'est clair. Et oui, voilà, pour le reste, les doubles n'ont pas été incroyables. Non, hein. Il n'y a eu quasiment que des raclés. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, puisque ils étaient quasiment tous joués d'avance. Donc, victoire 5-3 du LVA. On reviendra évidemment plus tard sur le classement. On passe à la deuxième rencontre, Talence contre Chambly.
I'm the bad guy.
Take that! Alors, on va en parler en deuxième, puisque Chambly va donc en play-off. Mais pour la rencontre, pas grand-chose à dire, puisque Talence s'était sauvé la semaine dernière, lors de leur dernière rencontre. Ils avaient donc pas mal d'absents, Lucas Clairbout notamment, Selena Pic,
Clara Azur-Mendy,
Voilà, donc une belle liste d'absents. Lucas Renoir n'était pas là non plus, voilà.
Voilà.
Vous l'avez compris, beaucoup, beaucoup trop d'absents face à une équipe de Chambly qui, pour le coup, a joué le jeu jusqu'au bout, qui a ramené, je sais pas, c'est quoi, c'est un tank, c'est un char d'assaut, Benoît, ce qu'ils ont ramené à Talence.
C'est compliqué, ouais.
Ouais, avec l'équipe type, tout simplement. Ça a fait un 8-0 assez logique, aucun set remporté par Talence. Je vais quand même dire les scores, et on va faire dans l'ordre de la feuille, ce sera peut-être plus compréhensible. Alors, les simples hommes. Thomas Rouxel qui bat Guilhem Ohio, 21-14, 21-17. Deuxième simple homme, Sacha Lévesque qui bat Matteo Bigot 21-12-21-9. Chez les simples dames, on a Michelle Lee, la canadienne, qui a battu la jeune Florian Nurit 21-10-21-10. Et Léon Usué qui a battu Camille Benetro 21-8-21-10. Double homme remporté également donc par Chambly, Éloi Adam et Fabien Delru battent Matteo Bigot et Bastien Kersaudi, un des rares titulaires de talent à être présent finalement, 21-14-21-19. Alors qu'en double dame, Delphine Delru et Lauren Smith battent facilement Camille Benetro et Elisaveta Zarka 21-14-21-7. Et les deux mixtes, qui sont en plus la force de Chambly, Ellie Smith bat Kersaudi Zarka 22-20-21-11, et Fabien et Delphine Delru battent Guillaume Oyo, et Florian Nurit 21-15-21-10. Voilà, Benoît, c'est pour le coup un score 8-0. On n'est pas très fort en pronostic et nous, on n'a pas toujours, on n'a jamais même les feuilles de match au moment de faire nos pronos. Mais je pense que si tu nous avais montré les feuilles aux gens qui jouent avec nous sur les pronos, personne n'aurait pronostiqué autre chose qu'un 8-0. Je pense tellement il était prévisible.
Ouais, c'est ça. Après, Talence avait été plus ou moins honnête et transparent. On sait qu'ils avaient laissé jouer leurs joueurs. Leurs joueurs de l'équipe sur les tournois, je pense à Lucas Clerbou ou Lucas Renoir. Tu l'as dit au tout début de la présentation du match, c'est qu'ils avaient déjà acquis leur maintien la semaine dernière, enfin la dernière journée, il n'y avait plus rien à jouer. Et de l'autre côté, Chambly se prépare pour les playoffs. En vrai, on ne pouvait pas s'attendre à non plus un énorme spectacle et on ne peut pas le reprocher à Talence, je trouve.
Voilà. Benoît, je me suis fait la réflexion en voyant ce score quand même. Heureusement que, en gros, c'était déjà joué à l'avance et que Chambly n'avait pas besoin d'un point de bonus pour se qualifier en play-off parce que certaines équipes auraient pu avoir un peu mauvaise que Talence se ramène avec cette équipe, par exemple.
Vrai, et en même temps, les seuls matchs que Talence peut gagner, est-ce que c'est pas les deux simples hommes en temps normal, je veux dire. Et les deux, je suis bien gentil. Hein. Si déjà c'est un, c'est pas mal.
Ouais, mais un, ça fait un point au moins pour Chambly, quoi. C'est
ouais, au moins tu peux dire que Talence a joué le jeu. Là, c'est sûr que si la première place de Chambly ou la qualif s'était jouée là, effectivement, ça aurait tiqué un peu.
Bon, pas de bad fiction, c'était pas le cas, donc trop d'incidence. On passe à la troisième rencontre. Aix-en-Provence, Rostrenin.
Aimez-vous le badminton?
Oh non.
Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Benoît, une rencontre avec très peu d'intérêt, on va pas se mentir. Hein, une équipe sûre d'être maintenue et de ne pas aller en play-off, c'est-à-dire Aix-en-Provence. Ouais. Et une équipe certaine de descendre depuis la dernière journée, à savoir Rostrenin. On va quand même parler de ce qui s'est passé sur les terrains. En double dame, Maria Mitsova et Katerina Tomalova ont gagné pour Aix face à Katel Demochakin et Chichoufei 16-21-21-11-21-19. Dans double homme, également victoire de Aix-en-Provence, Sylvain Grosjean et Ronan Labarre battent Martin Boivot et Paul Tournefier 21-11-21-13. Danilo Bosnuc a battu Johan Barbieri en simple homme 1, 21-13-21-8. Et en simple dame 1, c'est Aix qui a gagné avec Lian Tan contre Yevhenia Paksiutova, 21-6-21-11. À mi-parcours, ça fait 3-1. Mais Aix-en-Provence va rapidement aggraver la marque grâce à Indrabagus Adeshandra contre Paul Tournefier, 21-13-21-10. La paire Labarre-Mitsova contre Boivo Chichoufei, 21-18-21-16. Et Katerina Tomalova face à Katel Demochakin, 21-16-21-6. Le dernier match, il sera pour Rostrenin avec la victoire en mix de la paire Bosnuc-Paksiutova contre Adeshandra Liantan, 21-12-14-21-21-19. Score final 6-2, deux équipes, j'allais dire diminuées, oui, il manquait quand même des joueurs puisque ça servait à rien de les ramener sur cette rencontre. On a vu en gros deux matchs un peu serrés. Allez, je peux compter le mixte avec Labarre-Mitsova, donc on a vu trois matchs un peu serrés. Le reste, c'est allé très très vite, Benoît. Et voilà, pas la rencontre qui nous marquera le plus dans cette saison.
Non, et je vais aller tout aussi vite. Rostrenen, on l'a dit, dans l'autre pool, clairement, il serait pas descendu à 1-1, mais c'est le jeu. J'ai hâte de savoir, on en parlera dans l'épisode Mercato, s'ils vont être capables de garder un Danilo Bosnuc, qui a fait une grosse saison, malgré tout. Et de l'autre côté, on en parlera dans le bilan, mais Aix, pas au niveau des attentes. Et ouais, bon, après cette rencontre, de toute façon, voilà, il n'y avait plus rien à jouer, donc on va pas vous mentir non plus, on n'y a accordé que peu d'intérêt Enfin, moi perso, c'est pas celle-là que j'ai privilégié à regarder. Mais
t'as pas empêché de dormir, on va pas se mentir.
Non, mais c'est deux équipes qu'on attendra l'année prochaine, que ce soit en N1 pour Ostrenen ou Aix, parce que je pense qu'on aura beaucoup d'attentes pour les deux.
Exactement. Alors, on va passer tout de suite au classement.
Look at this, look at that.
Alors, le classement final de cette poule 1, qu'est-ce que ça donne? On a Fos-sur-Mer en tête avec 42 points. Derrière, juste derrière, très près, Chambly, donc qui va en play-off aussi avec 41 points. On a une sorte de ventre mou où il y a eu Aire-sur-la-Lys et Aix-en-Provence, 37 pour le LVA, 36 pour Aix. Derrière, Talence à 22 et donc Rostrenin à 16. Rostrenin donc qui sera la seule équipe à ne pas avoir gagné avec 0 victoire, 2 nuls, 8 défaites. Et pour le reste, 7 victoires tout en haut et 3 défaites pour Fos-sur-Mer. Benoît, un mot de ce classement. On fera sûrement un épisode bilan où on fait bilan des pronos, etc., où on verra ce qu'on avait dit au début. Mais finalement, c'est celui qui se dégageait depuis quelques semaines, qu'on voyait un peu venir au fur et à mesure que Chambly remontait. Chambly qui était quand même 4 pendant un long moment. Fos qui conserve sa première place, c'est finalement de mon point de vue assez logique. Et finalement une bonne surprise de cette saison, je pense, ça aura finalement été Aire-sur-la-Lys, comme tu le disais, la petite déception Aix-en-Provence pour ma part.
Fos est mérité et à la fois miraculeux, parce que sur cette dernière journée, le point de bonus défensif, ils auraient pu le perdre et perdre cette première place qui aurait été invraisemblable au vu de la saison. R, c'est frustrant pour eux, parce qu'en fait je pense qu'ils avaient les armes finalement pour jouer les playoffs, mais enfin, ça dépendait pas de leur fait. Et après globalement, ouais, pareil que toi, la déception Aix, et puis derrière c'est ce à quoi on s'attendait pour le maintien.
Voilà, on passe tout de suite au pronostic.
Quand je prends le volant, c'est pas pour jouer au badminton, moi.
Alors Benoît, dis-moi, qu'est-ce que ça a donné les pronostics sur cette 10e journée?
Eh bien, les pronostics sur cette 10e journée, on a eu quand même pas mal de très très bons scores, je vais pas vous mentir. Parce que c'était, je dirais pas facile à pronostiquer, c'était pas ça. On a eu un énorme renversement à tête du classement, puisque Eric et Max se sont fait doubler sur le fil. Alors attention, on va y revenir, mais c'est pas terminé, c'est Sylvain
c'est
qui est en tête.
C'est pas fini, mais c'est bien de prendre des points maintenant.
C'est ça, et on a eu, je peux le dire, mais à défaut d'avoir gagné des matchs ce week-end en N2, Hugo Clerbou nous a fait un magnifique 10 points. Je sais même pas si ça avait été atteint une seule fois depuis le début des pronos.
Ah non,
donc,
je pense pas.
Monstrueux, vraiment monstrueux.
Oui, et là je vois là Hugo Clerbout qui du coup arrive à être top 10 alors qu'il a raté deux journées quand même.
Sur les deux dernières journées, c'est carton plein.
Voilà. De notre côté, Benoît, je vois que j'ai perdu le petit point d'avance
et
que
oui.
J'avais sur toi et que du coup, on n'arrive pas à se quitter, Benoît, on est toujours égalité.
Peut-être les playoffs ou pas.
Voilà, je suis pas sûr que ce soit ça qui nous différencie. Alors, les playoffs, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, bon, félicitations à Sylvain qui est en tête. Mais c'est pas fini. On va pas vous demander des pronos sur les rencontres. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait vous demander des scores sur les demi-finales, mais on pourrait pas vous demander de scores sur la finale et la petite finale, puisque ça se joue le lendemain et vous auriez pas le temps de nous les envoyer. En tout cas, on va pas prendre le risque de récompenser les plus réactifs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander l'ordre des 4 équipes qualifiées pour les playoffs. Ça va être récompensé comme ceci. 2 points par bon classement. Par bon classement d'une équipe, donc si vous avez bien fait le calcul, il y a 8 points à prendre. Ça peut encore changer pas mal de choses. Les demi-finales, c'est quoi? C'est le premier d'une poule qui joue contre le deuxième, les deux gagnants s'affrontent et les deux perdants s'affrontent dans une petite finale. Donc on va avoir Fos-sur-Mer contre Arras et Chambly contre Mulhouse. Donc si vous êtes un peu malin, vous pouvez capter qu'il y a des classements qui sont pas possibles. Par exemple, on pourra pas avoir, je dis n'importe quoi, Fos et Arras aux deux premières places, puisque les deux équipes vont s'affronter dès les demi. Ce ne sera donc pas possible. J'ai tout dit, à part que c'est dans 3 semaines. Donc Benoît, on le donne maintenant, j'imagine, on va donner notre classement. Moi j'ai mes 4 de toute façon. Est-ce que tu veux que je commence ou tu veux commencer?
Vas-y, je te laisse les donner.
Mon classement en 4, Arras.
Oui.
En 3, Mulhouse. En 2, Fos-sur-Mer. Et en 1, Chambly pour un nouveau titre. Voilà. Est-ce que le tien est différent?
Non. Le mien est malheureusement identique. Donc, soit on gagnera, soit on perdra ensemble, mais le mien est le même.
Donc, ça veut dire qu'on est sûr de finir égalité et à la fin de la saison, du coup.
J'aurais bien aimé changer et croire que Mulhouse peut aller chercher le titre, parce que j'ai vraiment envie de voir cette équipe y aller, mais Chambly m'a fait trop forte impression sur la phase retour. Même en gagnant les deux simples hommes, en fait, parce que je pense que Mulhouse va les prendre, les deux simples hommes. Je vois pas comment ils peuvent aller chercher. Faudra aller chercher deux autres matchs avec un potentiel mixte en or. C'est compliqué.
Ça va être compliqué. Ouais.
Pour le suspense, mais.
C'est quoi ça? On va peut-être avoir du coup Jiquel Lambert ou.
Jiquel Lambert.
Contre Ellie Smith par exemple.
Ouais. Après, Ellie Smith en ce moment, c'est pas l'assurance tout risque, mais voilà, ça voudrait dire qu'il faut les battre deux fois dans la journée.
Exactement.
Enfin, non, je garde le classement, même si j'aurais aimé donner un truc différent de toi.
En tout cas, effectivement, la demi-finale où moi je vais avoir une attention toute particulière, c'est celle-ci. Hein. Je pense que le Fosse-Arras est très déséquilibré, alors que le Chambly-Mulhouse peut être plus intéressant. Et une éventuelle finale Chambly-Fosse, moi j'ai dit Chambly parce qu'en plus récemment ils sont allés gagner 6-2 là-bas, mais ça peut être aussi intéressant parce que pareil, Fosse dans ce cas-là gagnait 2 simples hommes. Et après, il faut aller chercher des exploits sur les doubles. De toute façon, quand tu joues Chambly, il va falloir aller chercher des exploits sur les doubles.
Oui, tu vas pas gagner les simples dames. Hein. Enfin, en tout cas, voilà, peut-être un, mais j'imagine pas. Fosse, ça va être compliqué d'en gagner.
Donc voilà. Vous avez jusqu'au samedi des playoffs pour nous envoyer votre ordre. Votre podium des quatre, comme disait je sais plus quel footballeur. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous. Il y a moins de possibilités, de variation. En même temps, bon, on ne voulait pas non plus sanctionner ceux qui ont été bons toute la saison. Hein. Si vous êtes tout en bas du tableau, n'espérez pas non plus faire une remontée trop fantastique. Mais en tout cas, merci de participer de journée en journée à ce concours.
Juste attention, tu as dit week-end, mais les demi-finales sont le vendredi.
Oui, c'est vrai. Donc, Benoît, j'imagine que comme tu le fais d'habitude, t'enverras des petits rappels.
Bien sûr.
Mais effectivement, oui, c'est vrai que c'est demi-finale le vendredi et finale, petite finale le samedi. Et donc, c'est dans 3 semaines, me semble-t-il. Donc, les 5 et 6 mai.
Oui, c'est ça.
Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute.
De notre côté, on se retrouve dans 2 jours pour l'épisode sur la poule 2, donc également la dernière journée. Et lundi prochain, qu'est-ce qu'on vous sort lundi 24 avril? On vous sort un épisode entier sur un joueur dont on a parlé aujourd'hui dans cet épisode, Brice Leverdez. Voilà, on va revenir sur sa carrière, sur notamment les victoires sur Lee Chong-wei, sur les petits déclats sympas, sur sa place dans l'histoire du badminton français, tout simplement. Donc n'hésitez pas à déjà nous envoyer des avis sur sa carrière ou des trucs que vous voulez qu'on lise dans cet épisode. On va bien s'amuser à le faire et j'espère que vous aimerez l'écouter. Merci de nous écouter, justement. On se retrouve donc dans 2 jours pour la poule 2 de Top 12. À la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。经历这平凡的事。